Étant petit, moi, mes frères, mes cousins, mes cousines, on aimait beaucoup aller chez notre grand-maman. Un peu embêté, moi, avec cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on aimait aller chez notre grand-maman ? Parce que on arrivait, on lui disait « Grand-maman, grand-maman, raconte-nous une histoire. » Elle disait jamais non. Alors, on s'installait sur un fauteuil, on se mettait bien, et puis l'histoire commençait toujours ainsi. Il y avait une fois, et on était content. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce matin, ce sera mon message, ce sera moins une prédication ou un enseignement, ce sera une histoire. Vous êtes bien installés ? Ça va ? Il y avait une fois un embryon. Vous savez ce que c'est un embryon ? Vous avez tous été un embryon. Quelques heures, quelques jours après la fécondation de l'ovule du spermatozoïde, dans le ventre de notre maman, nous étions des embryons. Malheureusement, pour beaucoup de gens, ils ne savent pas très bien ce que c'est un embryon. Et puis pour eux, c'est une chose, ça n'a pas encore de valeur à ce stade. Et pourtant, on lit, j'ai juste fait un petit extrait là, 2 semaines après la fécondation, le cœur a commencé son premier stade de développement. Peu à peu, le visage se dessine, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les cellules s'organisent alors en 3 groupes et on peut continuer. On connaît le premier couple de l'humanité, c'est Adam et Ève. Mais qui était le premier embryon de l'humanité ? Mais c'est Caïn. Je vous lis le texte dans Genèse, hein, c'est dans la Bible. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Pourquoi Caïn ? Quel drôle de nom. Si on reprend le texte hébreu, puisque c'est écrit en hébreu, c'est écrit qu'elle a dit, j'ai formé Cana. C'est Cana, le mot hébreu, qui a donné Caïn, Caïn. Et on comprend pourquoi. Elle a dit, moi j'ai fabriqué un enfant, alors il s'appelle Caïn. Et puis elle continue, un homme avec l'aide de l'Éternel. En fait, dans le texte, c'est écrit « avec l'Éternel ». En fait, on pourrait se dire, oui, mais Ève, réfléchis un peu. Tu fabriques un enfant, d'accord, mais tu pourrais dire « avec Adam, le papa ». Oui, mais pas tout à fait. Adam, c'est vrai qu'il a connu Ève, qu'il a donné son code génétique, qui a permis à Canaan de se développer, c'est bien à Caïn, pardon, c'est bien son fils, ce sera bien sa descendance à Adam, on ne discute pas là-dessus, mais la fabrication, ce n'est pas à l'homme. Ça se fait dans le ventre de la maman, c'est la maman qui façonne cet enfant, c'est elle qui souffre. Et puis, c'est pour ça qu'elle dit, j'ai formé Caïn, avec Dieu. Elle dit quand même avec Dieu. Alors maintenant, on va passer sur un texte. Et là, on ne s'est pas consulté avec Tatiana. C'est le verset, le psaume qu'elle a lu sans le commenter. Et moi, je vais reprendre ce psaume. Il est sur ma feuille. C'est imprimé, donc ce n'est pas... Elle est là, Tatiana, c'est bien. Moi, pour moi, quand j'ai entendu ça, ça, c'est un signe de Dieu. Je pense que ce je ne vais pas dire que ce message est important, mais ce fait-là est important. C'est toi qui as formé mes reins. Formé, donc c'est Dieu. On dit c'est toi, Dieu, qui as formé mes reins. Mes reins, c'est aussi tous les organes. Hein. Quel est le mot pour former ? Cana. Caïn. On voit que Dieu a cana. Moi, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Waouh ! Un embryon, hein ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, je reviens à mon histoire parce que je vous avais dit, c'est l'histoire d'un embryon. Ben oui, cet embryon, il y avait une particularité, à côté de lui, vous savez ce qu'il y avait ? Il y avait un deuxième embryon, il y avait deux embryons. Alors, quand on dit qu'il y a deux embryons, on a tous compris qu'il s'agit de jumeaux. Il y a des jumeaux identiques, c'est des jumeaux qui sont issus d'un seul ovule, et puis ils sont exactement la même chose, ils ont les mêmes couleurs de cheveux, de yeux, etc. Et puis quand on voit des jumeaux, on ne sait jamais qui c'est, si on se trompe ou pas. Et puis, il y a les jumeaux dits fraternels. Ça veut dire qu'ils sont issus de deux ovules différents. Ce sont des frères ou des sœurs ou des frères et sœurs, mais ils ne sont pas identiques, mais ils sont quand même en même temps dans le ventre de leur maman. Donc, dans mon histoire, ils étaient deux, mais c'était des jumeaux fraternels. Et puis, quand ça a pris de l'ampleur, cet embryon, après, ça reste heureusement pas toujours un embryon, hein, sinon, ce serait bizarre ce matin. Et donc, il y a le fœtus qui se développe, et là, ça commence à bouger. Et puis là, la maman, parce qu'il y a une maman, bien sûr, dans cette histoire, elle sent que ça bouge, ça se bouscule, mais c'est quand même pas normal. Mais elle ne sait pas ce qui se passe. Alors, elle va consulter. Et à la consultation, on lui dit, « Eh ben, madame, vous avez des jumeaux. » OK. Mais à l'époque, parce que je dis à l'époque, ce n'était pas récent. C'est une ancienne histoire, donc elle n'est pas allée consulter un médecin. Mais c'était une femme de foi, une femme qui croyait en Dieu. Et en fait, je vous ai caché ça, mais elle allait consulter Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre ? Ça, c'est pas normal, il y a quelque chose. Et c'est là que Dieu lui dit, eh bien, ce sont des jumeaux. Mais comme Dieu n'est pas juste un médecin pour dire c'est ça, puis voilà, il sait la suite et il dit de ces deux jumeaux, il y aura deux nations qui vont sortir. Et puis, il précise en disant, et l'aîné des jumeaux, c'est curieux hein, qu'on dise aîné, parce que finalement, des jumeaux, ils sont le même âge, mais il y en a quand même un qui va venir à jour en premier. Donc, l'aîné sera soumis ou va servir le deuxième. C'est étrange, ça. Bon, elle a entendu ça, sans savoir ce que ça représentait. Et le jour J est arrivé, donc l'aîné a vu le jour. Et puis le cadet, au lieu d'attendre sagement quelques minutes, comme ça se fait, hein, avant de venir, ben non, il y a eu des circonstances, je veux dire, sans le vouloir, dans son mouvement, et il a tenu avec sa petite main le petit pied de son frère. Et puis, voilà que tout de suite, après que son frère soit né, c'était lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les petites mains. Il me semble me souvenir qu'il est capable de bien, même s'il est tout petit, il tient. Et c'est ce qui s'est arrivé. Donc, c'est une situation assez cocasse pour ceux qui ont assisté à cette naissance. Enfin, je pense la sage-femme et la maman. Les hommes, en principe, n'étaient pas là à cette époque. Et ils ont vu ce petit qui tenait ce pied, surtout vers le talon, là. Puis ils ont dit, on va lui donner un nom. Il va s'appeler Talon, tout simplement Talon. Alors ceux qui les plus anciens qui ont lu des bandes dessinées vous disent ah ouais Achille Talon. Oui, mais seulement il parlait pas le français à cette époque. Ben il parlait une langue sémitique et ça se dit Akov le Talon. Akov puis on a mis un préfixe, ça donnait Yaakov et Yaakov c'est Jacob. En français. Et maintenant, je pense que vous connaissez tous l'histoire. Enfin, pour beaucoup. Je pourrais presque arrêter, parce que finalement, j'ai dit, je vous raconte une histoire, mais vous la connaissez, l'histoire. C'est l'histoire de Jacob que je vais vous raconter. Alors voilà, c'était Ésaü, hein, le frère aîné. Ils ont grandi. Et puis, le papa, c'était Isaac. La maman, c'était Rebecca. Et Isaac, il aimait beaucoup son fils entre guillemets, aîné, Ésaü, parce que c'était un gars costaud, et puis il aimait faire la chasse. Voilà. Et puis le plus jeune frère, c'était Jacob, Et c'est sa maman qui aimait Jacob. Pourquoi est-ce qu'elle l'aimait? Ce n'est pas écrit. Moi, j'ai ma petite idée, mais enfin, la Bible ne le dit pas. Un jour, quand ils étaient adultes, jeunes adultes, il faut dire que ces familles-là, elles vivaient en clan. Hein. Ce n'est pas comme chez nous, tout de suite, les enfants ils vont ailleurs. Ils vivent en clan. Et puis, là, donc, Ésaü est allé chasser, puis il est rentré bredouille. Ça peut arriver, hein. Un chasseur, il n'a rien pu prendre. Mais il avait une faim de loup, si on peut dire. Et il arrive... Et il voit son frère, Jacob, qui lui n'était pas chasseur, lui il était berger, il restait un petit peu près des tentes. Puis là, il avait mijoté un bon petit plat, un plat de lentilles. Ça c'est célèbre, hein, ce texte, un plat de lentilles. Et ce plat, il avait une apparence rougeâtre, rouge. Je pense suivant l'assaisonnement et suivant vraiment les lentilles que ça représentait. Et Ésaü arrive, là, il a faim, il descend, donne-moi ce truc rouge-là, donne-moi voir ce truc rouge. Je ne sais pas pourquoi, il ne pouvait pas dire c'est lentille, mais donne-moi ce truc rouge. Rouge, ça se dit Edom en hébreu, ce qui fait que ça lui a donné un surnom à ce Ésaü. On a dit c'est Edom à cause de ce rouge-là. Et puis, dans la Bible, si vous lisez, il y a des fois des prophéties, et on parle d'Edom, c'est aussi une nation, mais en fait, ça fait allusion à Ésaü. Et puis, notre Jacob... qui est déjà un peu commerçant dans l'âme, et dit, oui, tu peux avoir à manger, mais tu me vends, par contre, ton droit d'aînesse. C'est quoi le droit d'aînesse? J'ai écrit ici. Le droit d'aînesse est un privilège accordé au premier-né. Il comprenait une double part de l'héritage familial, ainsi que l'honneur de devenir un jour le chef de famille du clan. Voilà, donc Jacob avait, disons, cette ambition. Il disait, ah, mais quand même, ce serait sympa d'avoir le droit d'aînesse. Hein. Et le frangin, Ésaü, il dit, bah, de toute façon, je vais mourir, j'ai tellement faim. Oui, prends ce droit d'aînesse, pourvu que je puisse manger, il a mangé. Et la Bible dit, il a méprisé le droit d'aînesse. Mais j'ai quand même réfléchi, ce droit d'aînesse, alors il l'a vendu, puis Jacob, il n'a jamais eu un centime d'un héritage en argent ou en troupeau ou en quelque chose. Donc ça a été, je ne sais pas ce que ça représentait pour lui ce droit d'aînesse, mais les choses ont été faites ainsi. Plus tard, quelques années plus tard, aussi une situation un petit peu tendue, parce que Isaac, le papa, a senti que ses forces diminuaient, il avait déjà quasiment perdu la vue, et puis il a eu à cœur de bénir, de prier pour son fils aîné, parce que lui-même avait été béni de son papa qui était Abraham. Et puis il y avait cette bénédiction d'Abraham qui venait de Dieu, qui dirait « Je bénirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. » Et puis il a eu à cœur de transmettre cette bénédiction, mais en même temps, en joignant l'utile à l'agréable, il a dit à son fils, Ésaü, ben, écoute, va chasser, amène la chasse, et puis tu vas me faire un bon repas, et puis je te bénirai. Et là, la mère Rebecca a réalisé ça, et puis pendant que Ésaü est parti, elle allait vers son fils bien-aimé Jacob, et dit, eh bien Jacob, écoute, ton père a prévu de donner la bénédiction du père, allez, fais ce que je te dis. Tu vas prendre un chevreau, on va mijoter un bon petit plat, et puis tu vas prendre les habits, on va aller prendre les habits de ton frère, voilà, qui ont une certaine odeur, et puis on va aussi mettre un peu des peaux des peaux d'animaux, enfin pour bricoler des poils, parce que Ésaü, vous le savez ou le savez pas, il était velu, poilu, on dit. Poilu comme Ésaü, d'ailleurs, c'est une expression. Hein. Et donc, il fallait déguiser. Et puis là, Jacob a dit, oui, mais maman, ce que tu me dis là, on va tromper mon papa, je vais me faire passer pour mon frère, mais c'est une malédiction que je vais avoir sur moi. Et puis sa mère a dit, écoute, c'est moi qui prends la malédiction. Toi, tu m'obéis, c'est tout. Ainsi, la chose fut faite. Hein, et puis, Jacob est allé vers son père Isaac. Voilà, papa, j'ai préparé le repas et tout. Puis, Isaac a dit, ouais, mais c'est bizarre, cette voix. Il me semble que c'est la voix de mon fils Jacob. Viens ici. Puis il le touche, il sent l'odeur. Puis il dit, non, mais c'est quand même Ésaü. Bon, OK. Et il l'a béni. Je vous lis cette bénédiction qu'il a donnée. Jacob s'approcha et embrassa Isaac. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Il bénit alors en disant, l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et les fils de ta mère se prosterneront devant toi. Maudit soient tous ceux qui te maudiront et bénis soient tous ceux qui te béniront. Quand Ésaü est venu, puis qu'il a réalisé qu'il s'était fait usurper cette bénédiction, il est venu franc fou. Et il a dit, quand mon père mourra, moi je vais tuer mon frère pour ce qu'il m'a fait. Rebecca a réalisé ça, elle a dit à son fils, prends tes bagages et puis pars d'ici, va chez mon frère. Mon frère, il habite à 700 km d'ici, Laban. Mais maintenant, je fais quand même une petite pause parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de cette histoire. Vous pensez que c'était bien ce que Rebecca et Jacob ont fait, la manière dont ils ont fait? C'est une trahison. Alors, parce que moi, d'abord, je pensais vous faire lever la main puis dire ceux qui pensent que c'est pas bien. Alors, vous, en fait, à vous entendre, vous avez levé la main. Puis il y en a qui pensent que c'était bien. Ben moi, je pense aussi comme toi. Donc, les commentateurs, en gros, vous avez tous raison, c'est très bien. Mais il y a quand même quelques commentateurs, et puis peut-être Denis, je ne sais pas, moi, où on dit, oui, mais attends, Rebecca, c'était une femme de Dieu, il faut réaliser. Juste pour raconter son histoire, 60 ans avant, elle était à 700 justement, kilomètres de là, chez son, il y avait le frère Laban et son père Bethuel, et voilà qu'il y a un envoyé d'Abraham qui est venu puis qui a dit, j'ai besoin, je cherche une femme pour mon fils. Et il y avait eu des aspects un peu miraculeux, et Rebecca a réalisé quelque chose, qu'il y avait un signe. Et quand on lui a demandé, est-ce que tu veux, notez qu'elle avait la liberté, on ne lui a pas imposé. Elle a dit, est-ce que tu veux aller avec cet homme pour aller marier Isaac? Elle a dit, oui, j'irai. On dit qu'elle est presque une fille spirituelle d'Abraham. Abraham, c'était la même chose. Dieu dit, tu iras en terre de Canaan, et il est allé. Et puis elle, la même chose, Rebecca, c'est une femme de Dieu. Quand elle a eu cette question avec ses enfants, elle a prié Dieu, mais elle a prié Dieu en attendant une réponse. C'était une femme de foi. Et elle a eu cette révélation, voilà, que c'était Jacob qui était choisi. Et donc, quand cette situation est arrivée, elle, qu'est-ce qu'elle a cherché ? À réaliser finalement cette promesse. Et elle a fait ça, ce stratagème. Mais finalement, des fois on dit à qui profite le crime ? Admettons que c'est un peu comme un crime. Est-ce que ça lui profitait à elle, à Rebecca ? Ben rien. Parce que tout le monde pouvait penser que ça allait un peu pas mal finir, mais que Ésaü allait être franc fou. Elle a perdu son fils à son fils. Elle a dit, tu vas chez mon frère Laban, à 700 km. Et il est parti et il ne l'a plus jamais revu. Donc ça a été d'aucun avantage pour Rebecca. C'est pour ça que pour moi, Rebecca, c'est une femme super. Voilà. Alors, il est parti. Et puis, en route, il est encore près de la maison. Donc Jacob, il a fait un rêve, une nuit. Mais c'était un rêve d'une intensité, pas juste le rêve, on se souvient un peu le matin. C'était une intensité, c'était comme si c'était vrai. Et là, il voit une échelle qui monte au ciel. Et qui descend, donc il y a des anges qui montent, des anges qui descendent, et Dieu lui parle dans ce rêve, et je lis aussi ce que Dieu lui dit, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, et le Dieu d'Isaac, donc le papa, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance, et ça continue. Et là, ça l'a tellement impressionné quand il s'est réveillé le matin, il était, je pense, tout en sueur, tout. Marqué, il a dit, mais ici, c'est la maison de Dieu. C'est pas possible. Et puis, il a pris une grosse pierre, il l'a installée, il a dit, bon, ben, ça va marquer cet endroit, et on va l'appeler maison de Dieu. Maison, c'est Beth, Beth. Dieu, c'est El, Bethel. Voilà, c'est devenu Bethel. Et c'était, voilà, ça l'a vraiment touché. Et puis lui, il a fait une prière, il a dit, Dieu, tu seras mon Dieu. Donc, il a aussi réalisé la présence de Dieu, et il a dit, l'Éternel sera mon Dieu. Donc, ensuite, il a marché des jours et des jours, et il est arrivé à Charan, c'est le nom de la ville, où se trouvait son oncle, Laban. Et là, il s'est présenté, son oncle, quand il a su que c'était le neveu, le fils de sa sœur, ok, embrassade, bienvenue, sens-toi à la maison. Et puis, il est là, et Laban avait des enfants adultes aussi, qui vivaient aussi en clan. Et puis, il avait notamment deux filles. Il y avait une fille aînée qui s'appelait Léa. Elle a un petit problème avec les yeux. Ils étaient faibles. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'elle ne voyait pas bien? Il y avait un problème avec les yeux. Bref, elle n'était pas très belle. Par contre, sa sœur, Rachel, elle s'appelait Rachel, elle était parfaite. C'était la beauté parfaite. Inutile de dire que notre Jacob, coup de foudre. Pour Rachel. Et bon, mais à cette époque-là, donc, c'était pas les mêmes habitudes qu'on peut avoir ici dans nos pays. On respectait quand même une certaine procédure, et voilà. Donc, Laban, qui voyait son neveu là, qui avait l'air assez doué, et puis qui a travaillé pour lui un peu, il s'est rendu compte que c'était intéressant. Et puis il a dit, écoute, tu vas travailler pour moi. Pas partir plus loin ou ailleurs, mais dis-moi quel est le salaire que tu aimerais. Et là, il ne l'a pas loupé, Jacob. Il a dit, moi, mon salaire, c'est Rachel. Je ne veux pas d'argent, je veux travailler pour toi. Je pense qu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas l'obtenir comme ça tout de suite. Hein. Il a dit, je vais travailler pendant des années, pendant 7 ans, et après, j'aimerais que je me la donne comme épouse. Ainsi, les choses furent faites. Et 7 ans après, parce que rien ne bougeait, et Jacob est allé vers son oncle. Et puis il lui a dit, c'est le moment maintenant de ce que je puisse avoir ta fille. Oui, c'est vrai, ok, ils ont fait une grande fête qui a été préparée, il y a eu des noces, puis à cette époque-là, donc la femme venait voilée complètement. Avant, elle n'était pas voilée complètement, sinon il n'aurait pas pu réaliser qu'elle était aussi belle que ça, enfin, je ne sais pas. Mais elle était voilée. Et puis en plus, on a bien mangé, il y avait aussi du vin, il n'y a pas des immenses spots, hein, donc c'était avec peut-être des feux ici ou là. La fête a duré tard dans la nuit, tout le monde est rentré dans sa tente, et le matin, c'était pas Rachel qu'on lui avait donné comme épouse, c'était Léa, qui n'était pas très belle. Vous imaginez, là, bon. On peut imaginer que c'était un pauvre. Jacob, mais Léa aussi, c'était pas marrant pour elle. Il allait vers cette fois son beau-père, il dit, mais tu qu'est-ce qui se passe? Et puis là, elle lui dit, oui, mais ici, les habitudes, c'est toujours l'aîné, mais tu peux aussi avoir Rachel, c'est pas un souci. Donc la polygamie, c'était pas un problème à cette époque-là. Tu peux aussi avoir Rachel, mais tu travailleras encore 7 ans pour moi. Ainsi, les choses furent faites, mais c'est-à-dire qu'il a pu marier Rachel une semaine après, donc il s'est trouvé avec 2 épouses, il n'avait pas envisagé, 2 épouses, mais il a dû travailler 7 ans. Et Dieu qui est au ciel, il regarde aussi les hommes, comment on vit, ce qui se passe. Et Dieu a eu compassion de Léa. Et comme on sait que pour avoir un enfant, il faut être 2, la maman et Dieu, pour le construire, bon, il y a bien le papa, eh bien, il lui a accordé un enfant, alors que Rachel était stérile. Alors Léa, elle a eu un enfant, elle était heureuse. Et puis, elle lui a donné un nom. Elle lui a dit, mais Dieu, il a vu que mon mari ne m'aimait pas. Alors, comme en hébreu on dira, elle a donné un nom, Rouben, qui veut dire Rubin, hein, donc fils, mon fils, parce que Dieu m'a vu. Elle lui a donné ça comme nom. Et puis, rapidement plus tard, de nouveau un deuxième enfant. Et cette fois, il a dit, ah Dieu, il m'a entendu. Il a vu que c'était dur pour moi, il m'a entendu. Et puis, en hébreu, on dit schéma, comme on dit schéma Israël, entendre. Alors, ça a donné Shimeon, Siméon. Et puis, un troisième enfant, Rachel toujours stérile, un troisième enfant. Elle s'est dit, cette fois, mon mari, il a trois garçons de ma part. Mais cette fois, il va être content, il va s'attacher à moi. Attaché, on dit, je crois, Lava ou Lévi. Lévi, elle a donné comme nom Lévi, c'était le troisième enfant. Mon mari va s'attacher. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Et un quatrième enfant, et là, il y a quelque chose qui a changé dans son cœur. Jusque-là, elle souffrait, elle disait, mon mari ne m'aime pas, etc. Ah, Dieu, il m'entend. Voilà. Et puis là, il y a quelque chose qui change. Au lieu de tout ramener à elle, elle ramène tout à Dieu. C'est fini. Elle ne se plaint plus. C'est comme ça. Et elle loue Dieu dans le sens d'un remerciement. Et ce verbe qui dit remercier, louer, mais dans le sens de remerciement, yada, ça donnait Judas. Et Judas est le quatrième enfant. Et vous savez que Judas est le fils le plus important de Jacob, dans le sens qu'il y a eu après des tribus, il y a eu la tribu de Judas, et il y a David de la tribu de Judas, et Jésus est de la tribu de Judas. Donc on voit cette importance. Hein. Moi, je ne vais pas continuer à vous raconter, parce qu'il y a eu 12 enfants. Hein, donc, Mais quand même, en vitesse, dire que Rachel était quand même désespérée, et puis elle a eu l'idée de faire ce qu'on appelle une GPA. Gestation pour autrui. Mais à la manière de l'époque, hein, elle a pris sa servante, puis elle a dit à Jacob, puisque tu ne me donnes pas d'enfant, ben, va vers ma servante, puis les enfants qu'elle aura, ce sera les miens. Des habitudes un peu bizarres. Bref, il y a eu deux enfants et pour finalement pour Rachel. Et puis, Léa, qui n'avait plus d'enfants, elle en avait eu quatre, mais il y a une jalousie, il y avait une rivalité entre ses sœurs qui étaient des rivales du point de vue épouse. Elle a fait la même chose, elle a pris sa servante, elle a dit, Jacob, tu vas vers elle, tu me fais encore des enfants là. Elle en a eu deux, alors si on additionne, ça fait 4 plus 2, 6 plus 2, 8. Et puis après, Léa, encore, elle a eu des enfants, elle en a eu deux encore, 10. Et puis finalement, Dieu, il s'est quand même souvenu de Rachel et il lui a accordé un enfant, Joseph. Et elle a donné le nom Joseph. Joseph, ça veut dire que Dieu m'en donne encore. C'est clair, elle n'en avait qu'un. Alors tout de suite, elle donne Joseph. Et voilà. Écoutez, on pourrait se dire, ouais, c'est quand même des histoires bizarres qu'on lit dans la Bible, hein, ces histoires d'épouses, de polygamie. Ben. Effectivement, j'entendais quelqu'un qui disait « Oui, mais ça, c'était l'Ancien Testament, parce que maintenant, c'est le Nouveau, c'est plus les mêmes règles. » Puis moi, je dirais « Ouais, je vais prendre un prophète, l'Ancien Testament, et puis ça, pour moi, c'est un point fort que je vais dire ce matin. Et je vais le lire, c'est Malachie 2,15. Écoutez ça. « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. » Et pourtant, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. De qui est-ce que parle le prophète Malachie ? En disant, tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse, mais il y en a un, on peut comprendre, qui l'a fait ça. Vous voyez de qui il s'agit ? C'est Abraham. Parce que Abraham avait reçu une promesse, et puis, de toute façon, il n'était plus en âge ni sa femme d'avoir des enfants, et puis, ils ont pensé qu'il fallait qu'il y ait quand même qu'il y ait une tierce personne, c'est-à-dire Agar, et c'est Sarah, la femme légitime, qui a dit à son mari, écoute, va pour qu'il y ait au moins un enfant, une descendance. Et c'était dans une bonne optique. Mais c'était faux, quand même. Mais il l'a fait. Après, ils ont eu vraiment, justement, Isaac. Hein. Veillez sur votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car je déteste le divorce. dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, est celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. C'est très fort. C'est quand même intéressant de savoir que Jésus, il s'est référé peut-être pas directement à ce texte, mais au problème du divorce, parce qu'il y en a qui lui en ont parlé. Puis ils ont dit, oui, mais on s'est autorisé de se divorcer, Moïse, il a permis. Et puis Jésus, il a reconnu qu'il y a des situations, peut-être, voilà, ça s'est passé, c'est fait. Mais il a dit, mais au début, ce n'était pas comme ça. Au début, Dieu, il disait, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Autrement dit, il y a la grâce. On ne va pas maintenant faire du poids sur des gens qui ont eu quand même des souffrances dans leur vie. Mais de se souvenir que ce n'était pas prévu dès le départ. Il n'y a pas l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça n'a jamais été vraiment une bonne solution. La polygamie, disons-le comme ça. Mais, ouais. Bien. Je reprends mes... Et puis là... Jacob, donc les années ont passé, il avait des enfants, il avait des épouses, et puis il avait aussi des troupeaux, parce qu'il avait continué de travailler pour Laban, mais quand même, il a aussi travaillé pour lui. Il est devenu quand même assez riche, et puis un jour, il a pris les deux épouses importantes, Rachel et Léa, puis il leur a dit, écoutez, demain, nous, on se barre. On arrête de rester ici avec votre père Laban. Il triche, il se profite de nous. On y va, on part. OK, elles ont dit, de toute façon, notre papa, il nous a vendus. C'est pas forcément quelqu'un voilà, qui est fantastique, donc on part. Et le lendemain, ils sont partis avec tout, armes et bagages. Mais comme ils n'étaient pas forcément tous exactement au même endroit, donc ça ne s'est pas remarqué tout de suite. Et trois jours après, Laban dit, oui, mais ils sont où, là, toute cette équipe? Mais il est parti. Ouh là là, il était fâché parce que Laban, Jacob, il rapportait beaucoup à Laban. Hein. Alors il l'a poursuivi, mais dans des mauvaises intentions. On s'est dit, ouh là là, il le poursuit avec aussi voilà, des gens. Et puis, une nuit, parce qu'il ne l'a pas tout de suite rattrapé, une nuit, Dieu s'est révélé à lui dans un rêve en lui disant, Laban, tu diras rien, ni en bien, ni en mal à Jacob, hein, parce que je regarde. Hein, et il a été impressionné, mais quand même, il est allé jusque vers, il a rattrapé Jacob et lui a dit, non, mais dis, qu'est-ce que tu fais? T'es parti, t'as volé mes filles, je ne peux même pas les embrasser, c'est pas normal. Et puis, Jacob lui a dit les quatre vérités aussi. Il a dit, mais tu sais, tu m'as toujours triché, ça ne jouait pas, maintenant moi j'y vais, je pars. Puis pourquoi je ne t'ai pas annoncé ça? Parce que j'avais peur que tu prennes mes épouses, que tu dises c'est tes filles, et c'est pour ça que je suis parti comme ça sans m'annoncer. Et puis Laban a dit, ok, mais quand même, tu m'as volé mes statuettes, mes idoles, alors ça, quand même. Et puis là, Jacob lui dit, on n'a jamais volé tes statuettes, tes idoles. De toute façon, Jacob, il n'avait qu'un seul Dieu, le vrai Dieu. Il a dit, mais écoute, va, ben fouille, regarde, si quelqu'un a volé ses statuettes, ben, et puis qu'il meure celui-là, s'il y en a un qui a fait ça. Il a fouillé, regardé dans les tentes, partout, il n'a rien trouvé. Il est allé dans la tente où il y avait ses filles, notamment Rachel. Et puis Rachel, elle était assise sur un siège, avec une robe bien ample, et puis elle lui dit, Rachel, mais papa, je ne peux pas vraiment t'embrasser, je dois rester assise, parce que j'ai ce que les femmes ont tous les mois, donc elle avait ses règles, dit-elle, et puis voilà, à cette époque-là, ben, ma foi, une femme, elle attendait que ça passe, et puis elle ne bougeait pas, alors, ok, et il est rentré là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y avait sous la robe? Il y avait les statuettes. Qui c'est qui les avait volées? Rachel. Rachel était une idolâtre. C'est pour ça que quand on voit Léa et Rachel, elle est jolie, d'accord, mais elle était idolâtre. Et ensuite, ça ne s'est pas su, Laban ne l'a pas su. Donc il continue. En fait, il retourne du côté de cette terre promise, qui est Canaan. Et puis là, il y avait comme quelqu'un qui a voulu l'empêcher d'aller, mais il y va. Mais maintenant, on doit se souvenir, oui, mais en Canaan, il y a un frangin là, qui s'appelle Ésaü. Bon, il a passé 20 ans. On peut penser que ça s'est arrangé. Alors, il a envoyé quelqu'un en avance vers son frère. Donc, Jacob a envoyé quelqu'un vers Ésaü pour dire, mais Ésaü, j'arrive maintenant, mais tu sais, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc, pour bien expliquer qu'il ne vient pas revendiquer ce fameux droit d'aînesse, hein, il a dit, non, non, je viens seulement pour faire la paix, que je trouve grâce devant toi. Hein. Et puis, les envoyés reviennent en retour, puis ils disent, oui, alors on a dit ça à ton frère, ben, il a levé 400 hommes, une armée, qui est en train de venir à ta rencontre. Là, ça a été la trouille de sa vie. Parce qu'il s'est dit, il va venir dans des mauvaises intentions, il va non seulement me tuer, mais mes épouses, mes enfants, il va tout détruire. Il a eu peur. Et là, il a fait une stratégie. Il a réuni 6 bergers. À un berger, il a dit, toi, tu vas préparer 200 moutons. Donc, on voit que Jacob, il avait des grands biens. 200 moutons. À l'autre, il dit, toi, tu vas prendre 200 chèvres. À l'autre, il dit, tu vas prendre une cinquantaine de chameaux. À l'autre, il dit, toi, tu vas prendre des vaches et des taureaux, 50 aussi. C'est pas mal, hein, rien que même 40 vaches. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de paysans qui ont 40 vaches aujourd'hui. Bref, et puis après, encore même des ânes. Et il les a envoyés un après l'autre, avec une certaine distance, et il a dit, quand vous verrez Ésaü, puis qui dira, c'est qui, c'est quoi ces moutons, vous direz, c'est les moutons de notre maître Jacob qui te les donne en cadeau. Un cadeau. Enfin, on imagine la situation. Et puis, Jacob, avec sa famille, ils sont mis un peu de côté, et puis, une nuit, il allait prier. Bon, prier, c'est pas le bon mot. Intercéder, crier à Dieu, sauve-moi. Il s'est senti fichu, perdu. Et là, la nuit, pendant qu'il priait, tout d'un coup, il y a un homme qui était là. C'est étrange, c'est un peu un mystère, mais il se met à se battre contre lui. Il se bat, puis on réalise que ce n'était pas se battre pour simplement se détruire. On réalise qu'il se bat parce que Jacob réalise que cet homme, il a la capacité de le bénir. Et il se bat pour dire « Bénis-moi ». Et à la fin de la nuit, l'homme qui est là, il réalise qu'il n'arrive pas à se défaire de ce Jacob qui le retient presque. Hein. Et puis, il lui a donné un coup. On dit que c'était sur la hanche. Hein. Si vous lisez le texte en hébreu, on peut comprendre que c'est entre les jambes qu'il lui a donné le coup. Et notre pauvre... Notre pauvre Jacob, il était... Et puis l'homme, il a dit, laisse-moi partir. Et puis Jacob a dit, non, tu me bénis d'abord, puis après tu pars. Et puis là, l'homme, il lui dit, mais tu t'appelles comment ? Jacob. Eh bien maintenant, tu t'appelleras Israël. Alors, il faut dire encore une chose sur Jacob que j'ai omis de dire. Jacob veut dire talon. Mais vous voyez, le talon, c'est courbe. Alors, en hébreu, talon, ça veut aussi dire un petit peu tordu. T'es un tordu, t'es un faucheton. Donc Jacob, il avait ce nom qui lui collait, hein, qui disait, t'es un faucheton, Jacob. Et puis il lui dit, maintenant tu t'appelleras Israël. Elle, on comprend que c'est Dieu. Hein. ISR, les trois premières lettres, on peut faire comme ça des analyses, mais je fais peut-être un peu plus court. On voit que ça veut dire droiture. Et l'homme qui était tordu, Dieu le rend droit. Et c'est ça que moi je vois dans ce mot Israël. J'ai un peu feuilleté cette semaine par rapport à ça et je suis tombé sur un verset qu'il faut que je vous lise, qui confirme presque ça. Parce que vous savez, quand on a des termes hein, tordus ou grand droit, il faut aller voir dans la Bible si c'est vraiment ça. Et je suis tombé sur Ésaïe 43. La version Darby, désolé Raphaël, tu peux regarder dans ta version, mais ce ne sera pas si bien. Alors, Darby, Ésaïe 43, il a traduit ceci. Il a dit, ce qui est tordu sera rendu droit. Ce qui est tordu sera rendu droit. Tordu, c'est Jacob, Yaakov. Et puis droit, c'est justement ce ISR, Yachar. Et là, on a exactement ce « tu t'appelles Jacob », mais maintenant tu t'appelleras Israël. Et c'est finalement aussi notre histoire. On est tous des Jacob, on est tous tordus, on est tous pécheurs. Mais par la bénédiction de Dieu, Dieu nous rend droit. Et vous remarquez dans cette histoire avec cet homme, il lui a dit, tu t'appelleras Israël parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Vainqueur comment ? On peut être vainqueur de Dieu, ce n'est pas possible. Il a réussi à obtenir la bénédiction. Et ça, ça nous montre aussi une attitude qui peut aussi être pour nous un enseignement, c'est de dire, de chercher vraiment la bénédiction de Dieu jusqu'à ce qu'on l'ait, j'allais dire. Et c'est Jésus qui fait de nous des hommes droits. Alors, on est tous des Jacob, on est tous des Israël. Et puis, bien sûr, après, il y a eu la rencontre avec son frère, hein, le lendemain. Donc, voilà, les choses étaient comme ça. Et puis, son frère Ésaü arrive et, miracle, Ésaü, il n'y a plus de colère en lui. Il a eu, bien sûr, ses 6 troupeaux, il s'est drôlement enrichi, certainement que ça a aidé, on ne sait pas, peu importe, mais Dieu a répondu à Jacob, il n'y avait plus de tension. Et quand ils sont arrivés de loin, notre Jacob, vous savez, il se met à genoux devant son frère, hein, tellement il avait peur. Et puis le frère dit, allez, viens, mais il n'y a pas de souci. Et puis ils s'embrassent et puis ils font la paix, si on veut. Pour ça, c'est génial. Et puis ensuite, Ésaü, il dit, bon, ben, mon frère, ben, viens avec moi. On va maintenant aller dans mon pays, à Séir, c'est tout au sud du pays. Et puis, mes hommes, ils vont te protéger et tout. Puis notre Jacob, oui, c'est ok, mais tu sais, nous, ma famille, il y a des petits enfants, il y a des petites brebis, nous, on ne marche pas très vite. Va déjà, toi, avec tes hommes, hein, va en avant et moi, je te suis tranquillement derrière. Ok, ils ont convenu de ça. Ésaü est parti. Il est parti à Séir. Alors maintenant, je regarde où est l'est, l'ouest, etc. C'est de ce côté. Donc, il est allé là-bas. Ésaü, et puis qu'est-ce qu'a fait Jacob ? Il est allé là-bas, exactement à l'opposé. Il est allé à Soukhot. Alors en fait, on voit, c'est un peu toute la culture peut-être proche-orientale, on veut blesser personne, mais en fait, ça n'allait pas ensemble. Jacob et Ésaü, c'est deux choses différentes, et voilà, la paix est revenue. On arrive bientôt au bout de mon histoire, parce que c'est l'histoire d'un embryon, n'oubliez pas. Et puis, il y a eu encore un drame, c'est Rachel. Rachel a attendu son deuxième enfant, et puis ça s'est mal passé. Quand elle arrivait au bout, elle a accouché, elle s'est sentie mourir. L'enfant est né, elle est morte. Ça nous fait penser un peu à cette parole de Jacob qui disait, mais celui qui a pris tes idoles, qu'il meure. Je ne sais pas. Bref, elle meurt, mais avant de mourir, elle donne encore un nom à son fils qui naît. Elle dit Ben-Oni, c'est-à-dire fils de ma douleur, de ma souffrance, parce qu'elle souffrait et elle est décédée. Et Jacob, qui a perdu sa chère épouse, il a vu cet enfant qu'il aimait beaucoup, même qu'il était voilà, tout récent. Et il a dit, on ne peut pas lui laisser ce nom terrible, dire fils de ma douleur. Et il a changé. Il a dit, bon, on va l'appeler fils de ma droite, Benjamin. Il y aura encore des choses que je pourrais dire, mais je vous donne juste un truc. Moi, j'ai reçu une fois un mail de l'Institut biblique d'Israël. Et puis, ils savent que ceux qui étudient l'hébreu, c'est des chrétiens et qu'ils aiment bien un petit peu cet aspect-là. Puis, ils ont souligné, ils ont dit, mais voyez, Ben-Oni, fils de ma douleur, ça nous fait penser à Ésaïe 53, l'homme de douleur, c'est Jésus. Et puis, c'est des Juifs qui nous disent ça. Mais quand Jésus est monté au ciel, il a été à la droite de son Père, fils de ma droite. Ben-Oni est devenu Benjamin. Et là, il y a aussi une belle image que je vous laisse. Alors après, il y a l'histoire, bien sûr, de Joseph, etc. Mais moi, j'ai dit, je vous raconte l'histoire de Jacob. Donc, on va directement à la fin de sa vie. Il s'est retrouvé en Égypte avec ses 12 fils, enfin tout le clan, hein, ils étaient 70 personnes. Et puis là, il a senti que c'était aussi fini pour lui, Jacob. Et il a convoqué ses fils. Et cette fois, il a béni les 12 fils. On sent que, si vous voulez, Dieu a choisi ce peuple, Abraham, mais pas tous les fils d'Abraham. Abraham, Isaac, pas tous les fils d'Isaac. Isaac, Jacob, tous les fils de Jacob. Ces 12 sont venus, 12 tribus. Et puis, je vais vous lire les quatre premières tribus, ou les quatre premiers enfants, c'était les enfants de Léa, ces quatre que j'ai cités. Et puis, je vous lis ces bénédictions, parce que c'est quand même intéressant. Alors, je perds le fil. Oui, je veux le lire ici, dans ma Bible. Genèse 49, tout ça, ça se trouve dans la Genèse. Hein. Si vraiment une fois vous avez envie d'une belle histoire, ben vous lisez Genèse, vous verrez encore d'autres choses que ce que j'ai dit ce matin. Alors, le premier fils, j'allais dire, est-ce que vous vous en souvenez? Quel est le premier fils, le nom? Ruben, bravo. Moi, il n'y a pas longtemps que j'ai réalisé que je pourrais les dire les quatre premiers, après je ne peux plus dire la suite. Hein. Ruben. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Jacob, il fait venir Ruben, et il lui dit, « Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force, et le premier de mes enfants, tu n'auras aucun avantage. » Il dit à Ruben, la bénédiction, elle est bizarre. « Tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. » Ruben, effectivement, une fois, il allait coucher avec une des femmes de Jacob. Rayé de la carte, ok, mais toi, tu n'auras aucun avantage. Deuxième et troisième, ça va ensemble. Siméon et Lévi. Shimon, tu m'écoutais, Lévi, voilà. Et bien, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, leur épée sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Ces deux fils, ils avaient commis des crimes. À un moment donné, ils ont tué des innocents parce que un des hommes avait couché avec la sœur. Vous voyez, c'est des histoires compliquées, hein. Ils couchaient avec la sœur, et puis là, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés, et il y a tout un stratagème, je ne donne pas le détail, ils ont tué des innocents. Quand vous lisez cette histoire, tu dis, ouais, c'est horrible, mais on n'a pas d'explication. Et plus tard, à la fin, vous voyez Jacob qui dit, ça ne passe pas, vous n'aurez rien. Et puis, il dit même, je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Lévi, la tribu de Lévi, entre autres, elle n'a pas eu de territoire. Elle a été dispersée dans chaque tribu. Bon, alors les Lévites, c'est clair, c'était des hommes qui servaient Dieu. Mais Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Vous savez que Judas, ça veut dire louer, célébrer. Hein? Donc il y a aussi de nouveau le jeu de mots. Judas, Yehuda, c'est tes frères qui te loueront. Hein? Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Je vais plus loin, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de toi. Vous savez, le sceptre, c'est un signe de royauté. Hein. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Shiloh, c'est un signe du Messie. Et on sait que Jésus est le Messie. Et il prophétise sur Judas en disant, c'est de là que sortira le roi, il y a David, mais le grand roi, c'est Jésus. Et jusqu'à ce que les peuples lui obéissent. Il attache son âme à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin, le sang de Jésus qui nous lave, hein, et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Il y a une grande bénédiction sur Judas, c'est ce quatrième fils qui est exceptionnel, qui sort du lot. Et c'est la fin de la vie de Jacob, de la vie de notre embryon. Et puis, voilà, c'est avec ça que je termine. Il y a, bien sûr, si on récapitule, qu'est-ce qu'il y aurait comme enseignement? Il y a plusieurs enseignements. Mais moi, j'étais quand même touché aussi par la lecture de Tania, du psaume 139. Une chose, c'est aussi une bonne nouvelle, mais c'est de voir que c'est Dieu qui nous aime et qui nous a tissés et que c'est lui, l'auteur de nos vies. Ça, c'est un sujet de louange. Il y a aussi sur le mariage que j'ai lu dans Malachie, c'est bien aussi de rappeler les choses parce qu'on oublie peut-être, la société l'oublie. Voilà, il y a Malachie et puis moi, je suis aussi très touché par Israël dans le sens de ce Jacob, on est des tordus et c'est Dieu qui nous rend droit. Et c'était une promesse pour Jacob en tant qu'homme, pour son peuple en tant que peuple et pour nous en tant qu'Église aussi. Voilà, il y a un peu beaucoup de choses que j'ai données. Désolé pour la longueur et que Dieu vous bénisse. Amen.